Alors, on va commencer notre quatrième sermon dans notre série sur la souveraineté de Dieu. Alors, on va juste faire une révision de tout ce qu'on a vu jusqu'à l'heure actuelle, parce que moi, je vois comme quand on fait une série sur un sujet précis comme ça, comme la souveraineté de Dieu, moi, je vois ça exactement comme un peintre qui fait une grosse murale. À un moment donné, vous allez le voir peindre dans un coin, vous allez voir ce qu'il fait. À un moment donné, whoop, il monte en haut, il fait un autre coin. Et il finit par faire 8, 10, 12, 15 coins. Et c'est quand tu prends du recul que tu vois comme les anglophones disent, the big picture, la grande image, tu la vois à la fin. Alors, la doctrine sur la souveraineté de Dieu, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, on a fait des petites parties. On va regarder ce qu'on a fait. Et à mesure qu'on va avancer, on va regarder un petit peu plus la souveraineté de Dieu dans la grande image. Alors, dans le premier sermon, on avait commencé par définir qu'est-ce que c'était. Autrement dit, la souveraineté, c'est que Dieu est le grand boss de l'univers et il fait ce qu'il veut avec ce qu'il veut parce que ça lui appartient. Alors, on avait examiné pourquoi Dieu a le droit de régner de cette façon-là, de façon absolue sur toute chose, sur toute sa création. Alors, les raisons, c'est bien simple, c'est qu'il est le créateur et qu'il a le droit d'exercer son contrôle sur absolument toute chose. Donc, son contrôle, de quelle nature est son pouvoir? Son pouvoir est absolu. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est aussi complet. Il n'y a pas rien qui n'est pas compris dans son plan. Et Dieu nous avertit aussi dans les Écritures qu'il ne rend de compte à personne. Ça, c'est une tendance qu'on a, nous, comme êtres humains. Dès qu'il se passe quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, on est porté à questionner Dieu. « Veux-tu bien me dire pourquoi que telle affaire arrive sur la terre? » Dieu dit qu'il est au contrôle de toute chose et que toute chose qui arrive, arrive à cause qu'il l'a permis. Il y a dans Lamentation, je pense que c'est Lamentation 3, quelque chose, là, il dit « Qui dit qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonnée? » S'il y a une chose qui arrive, c'est parce que le Seigneur l'a ordonnée, il l'a permise. Et à quelque part, des fois, on ne comprend pas tout le temps. On ne comprend pas toujours dans l'ensemble de ce qui se passe sur la terre, et on ne comprend pas toujours dans notre vie non plus. Mais Dieu dit qu'il ne rend pas de compte. Fait que moi, comment je lui demanderais, « Seigneur, veux-tu bien me dire pourquoi tu m'envoies ça? J'ai-tu besoin d'être ça, moi-là? » Souvent, on dit ça, hein? « J'ai-tu besoin d'être ça, moi-là? » Fait que le Seigneur, il dit qu'il ne te rend pas de compte, mais les Écritures nous donnent des directions. Autrement dit, il nous dit que toute chose, pour un chrétien, sans aucune exception des petits détails de nos vies de tous les jours, aucune chose n'arrive sans que ça ait le but de nous rendre meilleurs et de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Des fois, ça fait mal, ce qu'il nous envoie. Et ça a un but. Et nous, il faut se souvenir de ça. Sinon, si on ne se souvient pas de ça, on se dit, « Ben là, une mortalité, j'avais-tu besoin de ça, moi, là? Veux-tu bien me dire pourquoi tu m'as envoyé ça, là? » Ou bien non, une maladie, bien non, une perte d'emploi, bien non, une perte d'argent, ou quoi que ce soit. Alors, quelque part, il faut toujours se souvenir que tout ce qui nous arrive dans nos vies, c'est sous le contrôle absolu de Dieu, que ça a un but de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Et on avait vu que pour l'étendue de son règne, on avait vu qu'il règne sur toute la création sans aucune exception, les planètes, les étoiles, tout cela. Et sur la providence. La providence, souvent, c'est un mot qu'on utilise sans nécessairement réfléchir à ce que ça veut dire. La providence, ça veut dire pro, ça veut dire avant. Vidéo, ça veut dire voir. Pourquoi le Seigneur peut voir tout d'avance? Parce que c'est lui qui l'a décrété, les choses qui vont nous arriver. Alors, la providence, c'est ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours, dans les moindres petits détails, c'est ça la providence. Et ça, Dieu est au contrôle de façon absolue de cela. Et plus on va comprendre, plus on va être conscient de cela, plus on va accueillir les circonstances que Dieu nous envoie dans nos vies avec intelligence, avec sagesse, avec même amour. On pourrait nous envoyer une maladie, on pourrait dire « Merci Seigneur, je sais que tu fais quelque chose avec ça. » Puis si vous avez déjà lu un petit peu des biographies, de saintes ou de saints qui se sont distingués par leur foi dans la vie chrétienne, vous allez vous rendre compte que souvent, les choses qui ont fait le plus croître un chrétien ou une chrétienne, ce sont les épreuves. Pourtant, nous autres, quand il nous arrive des épreuves, on est-tu rapide à ruer d'un brancard, comme on dit. Hein? Mais on se devrait de se rappeler qu'il n'y a rien qui nous arrive, qu'il n'y a pas un but. Et de l'accepter, moi je dis qu'un chrétien qui est vraiment rendu vraiment mûr, là, prend du temps à mûrir. On est comme des fruits, mais on est vert longtemps. Avant qu'on soit mûr, quand on est vraiment mûr, on sait que tout ce qui arrive dans la journée, vous cognez un pouce avec un marteau, vous allez dire, pourquoi le Seigneur a permis ça? Mais peut-être qu'il veut te montrer d'être plus prudent. Et bien d'autres choses. Le Seigneur a toujours, comme tu dis souvent, on utilise l'expression, il fait d'une pierre plusieurs coups. Avec un événement, ça peut avoir différentes raisons. Donc, on avait vu qu'avec l'étendue de son règne, c'était sur la providence. Sur les hommes, il contrôle chacun des hommes individuellement sur la terre. On parle qu'on est 8 milliards. Moi, on est 30, puis des fois, j'ai de la misère à me souvenir des noms de 30 personnes. Imaginez-vous 8 milliards qu'il connaît de façon parfaite et qu'il contrôle de façon parfaite. Ça, c'est sur les hommes individuellement et aussi sur les hommes collectivement. Quand on parle d'un pays, États-Unis, Canada, France, Angleterre, etc., là, Chine, ils contrôlent les pays aussi. Alors, et on avait vu aussi qu'ils contrôlaient ses saints. Donc, ça, ses saints, c'est qui ça? C'est nous. Ils contrôlent nos vies à la perfection. Et aussi, dans l'attribution du salut, on n'est pas rendu là, là. Mais quand on va arriver dans cette partie-là de l'étude de la souveraineté de Dieu, on va voir que c'est Dieu qui, dans l'éternité, de toute éternité, avait décidé, nom par nom, qui serait sauvé dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, ça veut dire en France, en Angleterre, au Canada, au Québec, dans l'espace. Dans le temps, premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, cinquième siècle, aller jusqu'à aujourd'hui. Il avait décidé ça d'avance. Imaginez-vous, on n'existait pas encore. Moi, je suis venu au monde le 21 septembre 1946. Il savait quand je viendrai au monde, mais dans sa tête, au Seigneur, c'est ça que les Écritures nous enseignent, j'existais déjà dans sa tête à lui. De toute éternité, il nous a placés en Jésus-Christ pour éventuellement recevoir le salut. C'est drôle de penser à ça. On n'existait pas, mais dans sa tête, au Seigneur, dans le Seigneur, on existait déjà. Et il avait déjà décidé de notre destinée éternelle, soit en nous plaçant en Jésus-Christ, ou soit en nous plaçant pas en Jésus-Christ. En nous plaçant en Jésus-Christ, ça nous assurait le salut, et à partir du moment qu'on l'a, on ne le perd pas. OK, dans notre deuxième sermon, on avait développé l'idée que le Seigneur règne sur la création. On l'avait plus donner des détails sur ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est la création. Donc, il y a les créatures inanimées. Inanimées, c'est une roche, c'est inanimé. Mais il y a des créatures animées aussi. Donc, la végétation, ça c'est animé parce qu'il y a de la vie là-dedans. Les animaux, les poissons, les oiseaux. Il y a le contrôle parfait sur cela. Inanimé, animé. Il y a aussi le contrôle sur les trois règnes, végétal, animal, minéral, de façon parfaite. On oublie souvent ça. Et on avait commencé dans notre troisième leçon et notre quatrième, parce que je pensais pouvoir la faire dans la troisième leçon, ce qu'on étudie aujourd'hui, mais ça en prend deux. Dieu règne de façon parfaite sur les anges bons et mauvais. Donc, il règne sur les démons, il règne sur Satan lui-même. Alors, on avait vu les anges, on va juste se rafraîchir la mémoire. Je vous avais donné, la semaine dernière, à ceux qui ont ramassé les leçons, des copies d'articles de dictionnaire qui définissent qu'est-ce que c'est un ange, pourquoi il y en a des bons, pourquoi il y en a des méchants, pourquoi qui était Satan. Je vous ai tout donné ces détails-là. Alors, s'il y en a que ça intéresse, vous me le direz, je vous les donnerai. Alors, juste pour faire une brève révision de ce qu'on avait vu dans le sermon qu'il règne sur les anges bons, on avait vu que des anges, c'est des êtres spirituels. Normalement, on ne voit pas un ange, il n'y a pas de corps. Mais parfois, historiquement, dans les Écritures, on voit que le Seigneur a donné que des personnes voient des anges parce qu'il a permis que les personnes voient une apparence. Et ce n'est pas parce que normalement les êtres, les anges ont des corps. C'est des êtres spirituels, des esprits. Mais il faut se rappeler aussi que c'est des esprits créés. Quel est le problème de Satan? Il était une créature et il a voulu se prendre pour le créateur. Et il a fait une méchante erreur. Alors, on avait vu que c'était des êtres créés qui étaient dotés d'un jugement moral. Quand tu es doté d'un jugement moral, quand tu es placé devant une situation, tu peux savoir si c'est bien ou si c'est mal. Donc, ils ont la capacité, ils avaient une certaine capacité de savoir si c'était bien. Et les anges sont d'une grande puissance. Parce qu'il y a des exemples dans les Écritures, par exemple, quand Pierre était emprisonné, et il y avait des choses au moins pour pied, puis il est arrivé un ange en pleine nuit, puis faut croire qu'ils sont d'une grosse. Parce que moi, je suis assez raide d'ouvrir ça, là. Ça s'est fait instantanément, là. Puis il y avait une grosse, grosse porte de métal, puis il a ouvert la porte de métal. Alors, en termes de force et en termes d'intelligence, ils sont plus intelligents et plus forts que nous. Mais ils n'ont pas de corps. Les anges n'ont pas toujours existé. Ils ont été créés comme c'est des créatures. Et bien entendu, ils font partie de l'univers que le Seigneur a créé. On avait regardé un petit peu leur nombre, juste pour faire une petite révision. Dans Apocalypse 5, verset 11, on parle de chiffres, là. Ça dit, et je regardai et j'entendis une voix. Ici, c'est Jean. Jean dans l'Apocalypse. Il dit, et je regardai et j'entendis une voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Des milliers de milliers, 1 000 fois 1 000, ça fait 1 million. Il ne dit pas combien il y en a, mais il dit des milliers de milliers, donc c'est des millions. Il ne dit pas le nombre de millions, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'anges bons sur la terre. Dieu permet des fois qu'il les utilise sur la terre, mais ils sont dans le ciel aussi. Donc, juste pour réviser, qu'est-ce que Dieu fait avec les anges bons? Il leur confie des missions pour les exécuter. On avait vu, par exemple, que David avait fait l'erreur de faire dénombrer le peuple et que Dieu n'avait pas aimé ça et qu'il avait donné le choix à David entre trois mots. Et les trois mots étaient les suivants. Il dit, à cause de te faire ça, je vais te donner un choix douloureux. Il dit, soit que tu vas avoir 3 années de famine dans le pays d'Israël, ou soit tu vas avoir 3 mois de défaite militaire devant les ennemis d'Israël, ou soit que je vais te donner 3 jours où je vais envoyer la peste par un ange qui détruirait. Alors on avait vu que éventuellement le Seigneur, dans sa miséricorde, il a dit à l'ange, rentre ton épée dans ton fourreau. Alors il avait fait le bon choix parce qu'il était dit, j'aime mieux que ce soit 3 jours. Et que ce soit sous le contrôle de l'Éternel, que ce soit 3 ans de famine ou que ce soit 3 mois de défaite militaire. Alors on voit l'intelligence qu'il avait, même s'il a fait une erreur, il avait au moins eu l'intelligence de choisir la bonne chose. Donc, on avait eu, donc, quand ils font des missions, la mission de libérer Pierre, par exemple, quand Pierre est emprisonné, le lendemain, il pourrait se faire martyriser ou tuer, Dieu envoie un ange pour le libérer. Parfois, Dieu utilise aussi les anges bons comme des messagers. Par exemple, on a Jean-Baptiste, qui, Élisabeth, s'est fait annoncer par un ange que son fils serait le précurseur du Seigneur. Alors, il les utilise des fois comme messagers. Et on a vu aussi la semaine dernière que Dieu utilise parfois un ange pour punir de mort un blasphémateur comme Hérode, qui était en haut, puis il haranguait le peuple, puis il se prenait pour un dieu. Le monde disait, voix d'un dieu et non voix d'un homme. Et lui, il était dans son habit rayonnant, et le Seigneur envoie un ange rongé par les vers, il s'écroule. C'est l'ange qui fait le job, c'est parce que le Seigneur l'a envoyé. Dieu permettra aussi aux anges, une autre mission que les anges bons vont avoir, c'est celui d'accompagner le Seigneur lors de sa deuxième venue. Les Écritures nous enseignent que lorsque le Seigneur va revenir, tout œil le verra. Il va revenir en gloire et en puissance avec une armée d'anges. Imaginez-vous les hommes qui ne croient pas au Seigneur, là, puis que quand ça va arriver, là. ils vont être terrorisés, morts de peur, littéralement. Alors, Dieu permettra aux anges, bon, d'accompagner Christ lors de sa deuxième venue. Autre chose que Dieu fait avec les anges, bon, c'est celui de combattre les forces démoniaques. On a vu la semaine dernière dans Daniel que parfois dans des pays, les pays sont contrôlés souvent par les forces du mal qui utilisent les dirigeants du pays pour faire des choses. Et Dieu envoie des anges pour combattre, pour que le résultat du combat qui se passe dans des pays arrive selon ce que Dieu veut. Alors, on a Daniel, on ne reviendra pas à tous les versets. Et Dieu se sert aussi des anges pour faire des annonces solennelles et des annonces publiques. Par exemple, dans Apocalypse, verset 18, on sait qu'un petit peu avant que la révélation du Seigneur se fasse, le Seigneur va utiliser des anges pour faire des avertissements publics et solennels. Alors, on voit en Apocalypse 18, « Et après ces choses, je vis un ange qui descendait du ciel ayant une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Et quand on regarde, il cria avec force d'une grande voix. « elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. » Le Seigneur se sert des anges, surtout à la fin, pour avertir le peuple de la terre. Ils sont tellement encroûtés dans leur péché que même malgré les avertissements d'une grande puissance et d'une grande sévérité et d'une grande solennité, ça dit dans les Écritures qu'ils vont continuer de blasphémer. Ça nous donne-tu une idée jusqu'à quel point les êtres humains sont corrompus et pourris? Même après ces avertissements-là, ils ne se repentiront pas non plus. Alors, autre et dernière chose, on avait vu que les anges bons font, c'est qu'ils observent les effets du salut sur les croyants. Vous avez dit qu'aujourd'hui, on est en assemblée. Là. Les anges de Dieu aiment plonger leur regard dans l'œuvre que le Seigneur a fait sur des pécheurs. Parce qu'ils savent que jusqu'à quel point on peut être méchant avant d'être sauvé. Et qu'on est encore méchant, même après qu'on est sauvé. Mais l'œuvre, c'est qu'on ne fait plus autant de méchanceté après notre salut qu'on le faisait avant. Et ils observent les effets de l'œuvre du salut, que le salut a eu dans nos vies. Et ils aiment ça parce que ça dit dans les Écritures qu'ils aiment plonger le regard. Dans 1 Pierre 1, verset 12, « Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, ils étaient les dispensateurs de ces choses. » Que vous ont été annoncés maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ils nous regardent. C'est rare, on vient au culte, c'est rare qu'on prend conscience qu'il y a des anges qui nous regardent, comment on adore, comment on agit dans la vie en général, pour observer les résultats glorieux de l'œuvre du salut dans nos vies. Là, on était rendu au deuxième point. Donc, Dieu règne souverainement sur les anges mauvais. Les anges mauvais, on parle dans l'Apocalypse qu'il y a eu à un moment donné une chute et il y en aurait, selon les Écritures, à peu près un tiers de l'ensemble des millions d'anges qui existaient, qui ont suivi Satan dans son péché. Donc, on parle d'un tiers, on parle de probablement plusieurs millions d'anges qui sont devenus méchants en suivant Satan. Donc, ce sont des démons, ce sont des anges méchants, ils ont péché contre Dieu. Et la seule chose qu'ils cherchent à faire depuis qu'ils sont tombés, c'est de faire du mal et d'inciter les hommes à pécher et à se détourner des voies du Seigneur. Dieu les contrôle de façon absolue et ils servent aussi à accomplir le plan et des décrets souverains du Seigneur, mais bien entendu, bien malgré eux. Souvent, le Seigneur va permettre qu'il arrive... On va prendre l'exemple de Joseph dans le livre de la Genèse. Ses frères étaient jaloux de Joseph parce que Joseph était saint, puis il disait des choses qu'il n'aimait pas aux autres. Il lui faisait des prophéties, puis il était jaloux. Okay, ils ont dit, écoute bien, là, on va se débarrasser de lui, il est fatigant. On va le vendre aux Ismaélites. Pour de l'argent. Et Dieu, qui lui mettait ça à l'esprit? C'est sûr que les démons avaient leur jeu. Mais le Seigneur se sert du fait que Joseph va être emmené en Égypte par les Ismaélites, qui va aller en prison, et que éventuellement, à cause qu'il interprète les rêves de ceux que de Pharaon, il va éventuellement l'élever pour qu'il soit le deuxième en puissance, pour que le peuple d'Israël, qui éventuellement connaîtrait une terrible famine, puisse être nourri, parce que il reconnaîtrait ses frères et qui permettrait que Israël, qui était en danger de crever. Alors, on voit la main de Dieu dans tout cela. Satan peut faire les choses dans le but d'emmener du mal, mais Dieu se sert du mal que Satan utilise pour lui, éventuellement, que tout tourne au bien. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de regarder que le Seigneur est capable de servir des anges méchants pour faire sortir du bien de tout cela. On va juste regarder Job, chapitre 2, versets 1 à 6. Avez-vous toutes lu Job? On va prendre pour acquis que vous l'avez toutes lu. Donc, au début, Dieu lui enlève tous les biens, mais il lui enlève les biens, la santé. Il lui enlève pas la vie, mais il lui enlève presque tout. Et le désir de Satan, c'est de dire, ben voyons donc, il te suit, puis c'est juste parce que tu le bénis. Arrête de le bénir, tu vas voir qu'il ne fera plus ça. Et Dieu lui dit, ah ouais, OK. Il t'a donné confiance en son serviteur qui permet à Satan d'exercer sa puissance sur lui. Et bien sûr que là, quand on lit Job au complet, on voit que Job a eu des gros combats. Il ne comprenait plus rien, il questionnait Dieu. Mais quand on regarde les chapitres 38, 39 et 40, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu se sert de toutes les épreuves que lui a eues en le questionnant. Il le remet sur la voie de Dieu et de la compréhension. Alors, ça dit de Job 2, versets 1 à 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Qu'est-ce qu'on voit par ça? C'est que Satan a le pouvoir de demander des choses pour nous cribler, comme quand on parle dans le Nouveau Testament, il a demandé à Pierre la permission de le cribler, ça veut dire de l'emmener dans des conditions tellement difficiles, et Dieu lui dit, « C'est lui qui contrôle jusqu'où tu peux aller. » Il dit, tu peux lui enlever ses biens, tu peux lui enlever ci, tu peux lui enlever ça, mais je ne veux pas que tu lui enlèves la vie. Pensez-vous que si Satan a eu le choix, qu'il n'y aura pas enlevé la vie? Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que Dieu contrôle le plus puissant des anges méchants, qui est Satan lui-même. Bien sûr, s'il contrôle le chef, il est capable de contrôler les soldats qui sont qui exécutent. On voit aussi dans Marc 5, versets 2 à 13, où on voit que Dieu et Jésus, quand il est venu sur la terre, avaient le contrôle sur les anges mauvais. Ça dit dans le verset 2, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. » Sortant des sépulcres, ça veut dire qu'il y a du monde, qu'il aimait tellement le mal et Satan, il était tellement sous le contrôle de Satan qu'il vivait dans des tombes, des tombeaux. Les sépulcres, c'est ça. Imaginez-vous, il faut que tu sois un petit peu, comme on dit, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ça veut dire que quand le malin prend, un démon prend possession d'un corps, même si tu l'aurais enchaîné, il était capable de briser ses chaînes. Ça dit verset 4, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les troupeaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. C'est beaucoup de démons, ça. Et Jésus, c'est lui qui est le patron. Il dit, quand tu vas là, quand je te dis d'aller là, tu vas aller là. Puis quand je te dis de ne pas aller là, tu n'iras pas là. Alors, on voit que Jésus, étant Dieu incarné, avait le même pouvoir que Dieu pour exercer sa puissance sur les démons. On a vu aussi dans Luc, chapitre 10, versets 17 à 20, que le Seigneur avait délégué son pouvoir de chasser les démons à ses disciples. Et on a vu qu'il n'avait pas tellement bien réagi à ça, parce qu'il avait confondu des choses. Ça dit, « Or, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont assujettis en ton nom. » Et il leur dit, « Je contemplais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici que je vous donne le pouvoir de marcher par-dessus les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien absolument ne vous nuira. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Voyez-vous, eux autres, ils étaient tout contents parce qu'ils disent, les démons même nous écoutent. Non, non, faut pas que tu sois content de ça, là. Faut que tu sois content parce que ton nom est écrit dans le livre des vivants dans le ciel. Ils confondaient un petit peu, là. Parce qu'ils commençaient... Parce que si tu donnes ça, là, ce pouvoir-là à un homme, souvent, il a tendance à se péter bretelles avec ça. Et lui, il voulait leur rappeler que, bon... C'est parce que ton nom est écrit dans le ciel. C'est ça qu'il faut que tu te glorifies, non pas de dire que les démons te sont assujettis. Un autre exemple, dans Juges 8, versets 33-35, et ça continue dans Juges 9, 1 à 5, 23-24, 52-54, parce que je ne peux pas vous donner toute l'histoire parce que c'est vraiment long. Mais dans le fond, c'est de garder les versets les plus importants pour vous montrer comment Dieu contrôle les esprits méchants. Alors ça, c'est l'histoire de Gédéon. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Et à quelque part, quand Gédéon est mort, bien là, il est à question, qui on va prendre pour contrôler Israël? Qui on va prendre? Alors, il y a l'histoire d'Abimélec. Il y avait 70 fils. Il y avait des grosses familles dans ce temps-là, plus grands que de nos jours. Alors, Gédéon avait 70 fils. Et il y en avait un qui s'appelait Abimélec. Et on va voir dans le texte que Dieu utilise des démons pour fomenter la rébellion dans le camp d'Abimélec. Alors ça dit, on va voir 33-35 dans Juges 8, 33-35, « Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérite pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. » Et après ça, on va dans Juges 9, les versets 1 à 5. Alors, Abimélec, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parlait, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. » Alors, dans le verset 3, les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car il se disait « C'est notre frère ». Et ils lui donnèrent 70 sicles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérit. Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Quand même bizarre, hein? L'argent venait des adorateurs de Satan. Et il sert de cet argent-là pour acheter des bombes qui vont le suivre pour faire ce qu'il veut. Alors, dans le verset 5, ça dit, « Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, frères de Jérubbaal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune de Jérubbaal, qui s'était caché. » Gédéon avait 70 fils, et cet homme-là décide que pour prendre la place, pour diriger, il a sacrifié 70 hommes sur une pierre, tous les enfants de Gédéon. Il était très reconnaissant, le peuple d'Israël. Très, très reconnaissant. Alors, quand vous allez au verset 23 de Juges 9, ça dit, « Alors, Dieu envoya un esprit mauvais entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec. » Voyez-vous, Dieu avait décidé qu'à cause qu'il avait tué 70 fils de Gédéon, qu'il avait fait vraiment du mal, que l'Éternel était maintenant, permettait qu'un esprit mauvais vienne et qu'il mette le trouble dans toute l'armée qu'Abimélec est en train de monter. Alors, et dans le verset 24, ça dit, « Furent infidèles à Abimélec, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçût son châtiment, et que leur sang retomba sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. » Et dans le verset 52 à 54, c'est là qu'on voit comment Dieu a fini par régler cette histoire-là. Verset 52, on sait qu'ils sont allés jusqu'à une tour. Et là, il avait l'intention de prendre des branches, mettre le feu là-dedans, puis les faire sortir de la tour, parce qu'ils s'étaient réfugiés dans la tour. Et, ça dit, Abimélec parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et il s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Verset 53. Alors, une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Pour un dirigeant militaire de cette époque-là, de mourir en se faisant jeter une roche à la tête par une femme, c'était la chose la plus honteuse qui ne pouvait pas arriver pour un chef militaire de cette époque-là. Autrement dit, il avait peur que dans l'avenir, on ait dit, Abimélec, là, il n'y avait rien là, c'est une femme qui l'a tué. Alors lui, Dieu permet que ce soit par une femme qui meurt. Et dans le verset 54, « Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Pourquoi tout ça est arrivé? Si le Seigneur n'aurait pas envoyé son ange mauvais pour mettre la rébellion dans ses rangs, l'histoire, alors Dieu a permis que son meurtre de 70 personnes, qui étaient les fils de celui qui avait libéré Israël de toutes les choses qui leur arrivaient, c'était pas croyable, hein? Comment les êtres humains peuvent être ingrats. Ils avaient libéré des choses de guerre, et lui, pour récompenser tout ça, il tue 70 de ses enfants. Et l'Éternel ne laisse pas ça là, par exemple, et il permet que, à cause qu'il envoie un démon, et que tout cela finisse par c'est lui qui finit tué avec une pierre sur la tête, que c'est une femme qui l'a tué. Un autre exemple, ça va être celui de un roi, au chapitre 22, les versets 20 à 23. Et après ça, il va y avoir les versets 31 à 38. Alors, on voit que Dieu envoie un esprit de mensonge au prophète du roi Akab. Ça dit, on va lire 20 à 23. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » Il dit, « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Si tu as un esprit de mensonge, tu n'as pas un ange bon. Tu as un ange mauvais et Dieu lui dit, « Sors, compte tes menteries, ils vont te croire et ça va marcher. » Et dans le verset 23, il dit, « Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » Et à partir du verset 31, « Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « Certainement, c'est le roi d'Israël. » Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Verset 33, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Verset 35, le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Verset 37, ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Verset 38, lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. C'est assez particulier cette histoire-là. Après ça, on va en voir un autre que un ange mauvais avait demandé ou Satan avait demandé de cribler Pierre, l'apôtre Pierre. Alors, dans Luc 22, les versets 31 à 34. Mais le Seigneur dit, « Simon, Simon, voilà Satan qui vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras retourné vers Dieu, affermis tes frères. » Et il lui dit, « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » On sait que Pierre avait la tendance de se penser plus fort qu'il était. Hein? Il va aller jusqu'à la mort. Puis quand il était le temps de la mort, mais il a régné trois fois. Mais Jésus dit, « Pierre, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui qu'auparavant. Tu n'es renié trois fois de me connaître. » Alors le Seigneur le remet à sa place. Mais on voit que, dans le fond, Satan avait demandé à cribler Pierre, c'est-à-dire à lui faire connaître des... Autrement dit, laisse-moi entre les mains, tu vas voir, je vais te l'arranger, moi, ton chef. Et le Seigneur, il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que tu puisses aider tes frères après. Alors, encore là, le Seigneur se sert d'une demande de Satan pour faire sortir du biais de tout cela, pour humilier Pierre, parce que Pierre se croyait bien vraiment fort. Il dit, « Moi, je vais aller avec toi et moi te suivre jusqu'à la mort! » Dès qu'il y a eu une occasion, là, le Seigneur le remet à sa place tout de suite. Il dit, « Ça sera pas... Le coq n'aura pas encore chanté trois fois que tu vas m'avoir renié trois fois. » Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire de ce texte d'aujourd'hui, tant sur les anges bons et mauvais? Il y en a plusieurs. La première, les anges bons, on a des leçons à apprendre d'eux, et cette leçon-là, c'est certainement leur obéissance rapide, leur obéissance joyeuse et leur obéissance complète. Est-ce que nous, là qu'on lit les Écritures et que Dieu nous donne les commandements, Est-ce qu'on a une attitude d'un ange? Obéissance rapide, obéissance joyeuse, obéissance complète. Ça nous remet en question un petit peu quand on se pose la question. Mais on a des leçons à apprendre des anges parce que eux, ils agissent de cette façon-là. Quand le Seigneur enseigne à notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il fait une comparaison. Il dit, j'aimerais que les hommes agissent sur la terre comme les anges agissent avec Dieu au ciel. Alors, notre grand Dieu souverain nous les a donnés, les anges, comme modèle. On peut, et je vous ai donné juste 3-4 versets, 3-4 passages ce matin sur soit l'utilisation des anges bons, soit sur l'utilisation des anges mauvais. Mais si vous avez déjà lu vos écritures d'un couvert à l'autre, vous allez voir que la présence des anges est partout dans les Écritures, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Alors, dans Matthieu 6, qui est la prière, quand les apôtres ont voulu que le Seigneur leur enseigne à prier, Matthieu 6, versets 9 à 10, « Vous, donc, priez ainsi, notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Deuxième chose qu'on peut apprendre sur les anges bons, c'est qu'ils sont des serviteurs au service de Dieu et au service des saints, à notre service. Je me souviens une année, j'étais à Sherbrooke, j'ai passé proche, passé à un cheveu de me faire rentrer dedans par un. Il y a un auto qui a tourné un coin de rue à une vitesse, et moi j'étais en train de traverser la rue. Le bumper, il m'a touché la jambe. J'ai senti ça, là. Mais pensez-vous que le Seigneur, des fois, juste le temps, là, le timing, qu'il ne pouvait pas y avoir une intervention d'ange là-dedans, moi je le crois souvent. Souvent dans des accidents aussi, des choses, qu'on a eu un accident, que le Seigneur a peut-être permis. Parce que les Écritures nous enseignent que les anges bons sont à notre service. Voyez-vous dans Hébreux 1, versets 6 et 7 et versets 13 et 14, « Mais pour le temps où il introduira de nouveau le premier-né sur la terre, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Et quant aux anges, sans doute, il dit, faisant de ses anges des vents et de ses ministres une flamme de feu. Et versets 13 et 14, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marche-pied de tes pieds. Et verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits ayant un ministère envoyé pour servir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Même si on n'en est pas pleinement conscient, le Seigneur a sûrement envoyé des anges dans nos vies de façon régulière et de façon beaucoup plus fréquente qu'on le sait, parce qu'on ne les voit pas. Donc, s'ils font quelque chose, on ne le voit pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui les a pas envoyés pour faire une chose précise. Alors, ne sont-ils pas envoyés? Ils ont un ministère. Un ministère, ça veut dire servir. Et dans leur service, c'est de servir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et troisième point qui est très rassurant, c'est celui que notre Dieu est souverain et qu'il contrôle de façon absolue tous les démons sans exception et bien entendu, Satan lui-même. Alors, béni et loué soit notre grand et glorieux souverain, pour le puissant contrôle sur les anges bons et mauvais, que notre Sauveur Jésus-Christ soit adoré éternellement. Amen.